Cette fois, ça y est, c'est enfin les playoffs de National League. Alors, lematin.ch est une nouvelle fois allé dans une patinoire. C'est Emmanuel Favre de la rédaction du Sport Center qui s'est déplacé à Fribourg pour rencontrer Christian Dubé, l'entraîneur de Fribourg-Gotteron. Il y évoque sa jeunesse, sa carrière et aussi ce qu'il attend lors de ses playoffs de National League. Bonne écoute d'au café avec.
Salut Christian Dubé.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Bien, bien, merci. Merci de m'accueillir ici à la patinoire de Fribourg. On est à côté du vestiaire de Fribourg-Gotteron. Pourquoi est-ce que tu as choisi cet endroit?
Ben, c'est l'endroit où probablement je passe le plus de temps, plus que la maison. Je suis ici pratiquement 7 jours par semaine, du matin au soir, parce que j'ai deux garçons qui jouent au hockey aussi, donc je suis ici énormément.
Mais bon, j'ai l'impression que je n'arrive pas à t'imaginer ailleurs que dans un environnement de hockey sur glace. Tu as une vie à côté du hockey, Christian?
Écoute, depuis que je suis coach et directeur sportif, ma vie est le hockey. Quand j'étais seulement directeur sportif, je passais quand même plus de temps à la maison ou à l'extérieur de sortir. Mais là, mon environnement est vraiment ici. Et puis, j'ai quand même des centres d'intérêt autre que le hockey, c'est clair. Je pense que les gens me connaissent un peu, que j'aime bien la mode, j'aime bien les belles choses. Je m'informe aussi beaucoup de ce qui se passe dans le monde. Pour moi, c'est très important. Le matin, quand je me lève, de regarder les nouvelles, que ce soit sportive, que ce soit économique, que ce soit nouvelle mondiale, la guerre et tout ça, de savoir ce qui se passe, c'est très important. Puis de réaliser qu'il n'y a pas juste le hockey dans la vie non plus. Donc oui, j'ai d'autres centres d'intérêt que le hockey, même si je suis à la patinoire la plupart du temps.
Eh ben, c'est bien, on découvre aussi des choses sur toi de cette manière-là, parce qu'en fait, le Christian Dubé que je connais, et puis je crois que je peux dire, je te connais presque depuis tout le temps, quoi, puisque tu as débarqué en Suisse, tu avais 3 ans, ton papa jouait pour le HCR, qui était en Ligue B à l'époque, tu as grandi dans une culture du hockey sur glace.
Oui, totalement. J'ai mon père, mon oncle qui a joué pour les Canadiens de Montréal, qui a gagné la Coupe Stanley aussi, donc... comme tu le dis, je suis dans les vestiaires depuis que j'ai 3 ans, 4 ans. Je pense que tu m'as dit avant que tu me voyais même à la patinoire à cet âge-là, que j'étais tout petit. Donc, moi, je connais, c'est tout ce que je connais, dans le fond. La patinoire, le vestiaire, l'odeur du vestiaire, les joueurs. Donc, c'est un environnement qui m'est familier depuis mon jeune âge.
Et c'est depuis ton jeune âge, tu as aussi une vie qui n'est peut-être pas commune avec les gens que tu as côtoyés sur les bancs d'école ou ailleurs dans la vie, puisque tu passais à peu près 8 mois en Suisse et 4 mois chez toi, ce qui correspondait à la vie de tes parents à la fin d'une saison de hockey sur glace. Finalement, tu as passé presque plus de temps en Suisse qu'au Québec dans ta vie aujourd'hui.
Ah, totalement. Mmh. J'ai passé déjà 12 ans quand j'étais jeune, quand j'étais petit. Et puis, je suis arrivé en Suisse à l'âge de 23 ans. J'en ai 47. Mmh. Donc, au total, j'ai pratiquement 40 ans de ma vie ou 37, 38 ans de ma vie en Suisse.
Et c'est quoi ton identité? Tu te définirais comment
c'est drôle,
aujourd'hui?
Parce que quand je suis au Québec, le monde va dire que je suis Suisse. Puis quand je suis en Suisse, je suis Québécois. C'est un peu comme... je pense que c'est Slava Bikov qui disait ça, que quand il est en Russie, il est plus suisse, et quand il est en Suisse, tout le monde dit qu'il est russe. Donc, t'es un peu le cul entre deux chaises, je peux dire. Je suis un faux Canadien, puis un faux Suisse aussi. Donc, je dirais que je suis plus suisse avec l'accent québécois.
En tout cas, j'ai toujours un souvenir, ça me vient à l'esprit maintenant, c'est que la Suisse, tu l'aimes, et tu as essayé, à un moment, de pouvoir jouer pour l'équipe de Suisse de hockey. Tu avais essayé de disputer, si je me souviens bien, les Jeux Olympiques. Et tu avais manifesté ce désir. C'est un vieux souvenir qui me revient. Et puis, pour une raison administrative, ça n'avait pas été possible.
Oui, c'était le Jeu de Turin en 2006. On avait contact avec Ralph Kruger, qui aurait aimé m'avoir avec l'équipe. Ça a été au début problème administratif. Enfin, j'ai dû sortir beaucoup de dossiers. Il y a des choses qui ont... Tu sais, quand on est arrivé, c'est dans les débuts des années 80. J'avais pas été enregistré. Il manquait de la paperasse ici et ça. On m'avait mis un petit peu des bâtons dans les roues au début. Et puis, j'ai été très, très frustré de ça. Et puis... Ça, mixé avec le fait que je ne trouvais pas correct pour moi d'aller jouer les Jeux olympiques et je ne voulais pas jouer les championnats du monde parce que je voulais retourner au Québec, moi, l'été. Pour moi, c'était vraiment important de retrouver, d'aller voir mes parents, mes soeurs, mes amis. Et je trouvais pas que c'était correct de jouer ces Jeux-là, prendre la place de quelqu'un et pas aller aux championnats du monde. Donc, le mix des deux choses ont fait que j'ai décidé de ne pas demander le passeport.
Tu aurais pu être Paul Di Pietro à la place de Paul Di Pietro.
Probablement, ou jouer avec.
ce côté-là, effectivement. Comme tu parlais avant, et c'est toi qui l'as dit, tu as des fois le cul entre deux chaises par rapport à à ta vie, les deux continents. Donc tu connais très bien les deux endroits. Qu'est-ce que tu aimes en Suisse que tu n'as pas au Québec?
La proximité des choses, déjà, quand tu es au Québec, moi, je viens d'une ville de 100. Maintenant, ça quoi? 130, 140 000 habitants, Sherbrooke, qui est une ville moyenne. Mais si tu veux aller faire les courses, tu en as pour 30 minutes à chaque fois. Donc, ici, tu es à Fribourg, ou que j'habitais à Berne de longues années, à Lugano, c'est tellement simple, je trouve. Tu vas en ville, tu fais ton épicerie ou tes courses à chaque jour. Je trouve ça, cette vie, je trouve ça magnifique. Et c'est vraiment ce qui manque en Amérique. C'est vraiment des grosses villes, t'es tout le temps en voiture. Donc, j'aime ce côté de marcher, de relaxer. La vie est plus simple aussi en Suisse. Il faut être honnête que c'est pas que business, faire de l'argent. Je veux dire, ce côté américain, je veux dire, c'est comme ça, hein, là-bas. C'est une autre mentalité que j'adore ici. On s'est installé en Gruyère. Une maison Gruyère de maintenant depuis 3-4 ans depuis le COVID. Extraordinaire. On a vu sur le lac de Gruyère. Donc, non, on a notre petit coin de paradis, si je peux dire. Et puis j'aime ce côté-là.
Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que tu adores au Québec et qui peuvent te manquer en Suisse, que tu ne retrouves pas chez nous?
Ben, ce qui me manque du Québec, ben, mes parents, mes sœurs. Ma famille, ma grand-mère a 101 ans maintenant. C'est toutes des choses qui manquent, que tu manques ces moments-là. T'sais, si tes parents deviennent malades ou t'es pas là pour voir ça. Donc, mais en même temps, ils savent très bien que ma vie est ici. Donc, on a choisi ce chemin-là. Je l'ai vécu quand j'étais jeune. Donc, j'ai eu une enfance extraordinaire en Suisse. Et puis, ben, faut pas se mentir, l'hiver au Québec, c'est pas ici, là. Les gens, ils pensent qu'ils savent pas c'est quoi avoir de la neige tout le temps, moins 30, moins 40, les routes sont mauvaises. Après, tout ce qui est aussi. Mais ce qui peut me manquer au Québec, c'est le sport à la télé aussi. Ça, c'est un truc que je parle souvent avec mon père, quand mes enfants vont, même l'été, on a été l'été au Québec, t'as du baseball, du football américain, du hockey jusqu'au mois de juin. Tous les jours, c'est non-stop à la télé. Puis ça, c'est un côté qui me manque du Québec. C'est qu'ici, on n'est pas à tu sais, nous, le sport, on en mange. C'est le truc numéro un. Ça parle de sport tout le temps, dans les journaux. Ça, c'est peut-être le côté qui me manque un petit peu aussi, là.
Je comprends ce que tu veux dire. Une petite histoire personnelle, Christian. Ça me rappelle, je sais pas si tu t'en souviens, ça fait fort longtemps, j'étais avec un collègue à Montréal. On a été voir un match de baseball qui était les Expos contre les New York Yankees. C'était guichet fermé. Et quelle était la personne qui, dans le stade olympique de, je pense, 60 000 places, était assis à côté de moi? C'était toi.
Ah, mais oui, mais je m'en rappelle, mais c'est vrai, je m'en rappelle. Oui, c'est vrai. C'était l'année que Montréal, je pense, était très bon avec. Moi, j'allais au moins 10-12 fois par été, j'adorais. Ben, l'anecdote, si j'avais eu choisi entre être joueur de hockey ou joueur de baseball, je voulais être joueur de baseball. Donc, pour moi, c'est un sport. Les gens ne comprennent pas vraiment ici, mais c'est un sport extraordinaire. Il y a beaucoup de tactique. T'es dehors, tu joues sur l'herbe, t'as 60 000 personnes dans le stade. C'est un sport que j'ai joué depuis mon jeune âge. Mm-hmm. Et puis, j'étais quand même pas si mal. Et puis, à un moment donné, ben, si je voulais pousser là-dedans, il aurait fallu que j'aille dans une université américaine, parce qu'au Canada, au Québec, c'est difficile. Et puis, finalement, j'ai décidé de rester dans le hockey. Mais c'est un... les expos, j'ai encore des casquettes et tout, c'était magnifique, une époque magnifique, ben voilà. Tu vois, donc, mais c'est vrai, je me rappelle de ça, je me rappelle très bien ça.
C'est bien disait, mais c'est quand même le monde est petit, ah, hein, ouais, quand même, clair, quand même clair, pour ça, le hasard total. Mais bon, tu as bien fait quand même, vu d'ici, de choisir le hockey sur glace. Est-ce que les gens savent, les plus jeunes peut-être ne savent peut-être pas, et toi, il peut, comme entraîneur de Fribourg-Gottéron, directeur sportif encore aujourd'hui, c'est que tu as été un sacré bon joueur et aussi dans les rangs juniors. Tu as connu une carrière... Quand tu avais quitté le Valais, c'était après Martigny. D'ailleurs, tu avais joué 2 matchs en Ligue B en play-off à 15 ans. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du hockey suisse. Je n'ai pas pu le vérifier. Et derrière, tu vas chez toi, au Faucon de Sherbrooke, en Ligue de hockey junior majeur. Et si j'ai bien vu, tu connais une saison de dingue. 62 matchs, 145 points.
Ma dernière année, oui. Alors, à 18 ans, c'est ça, j'ai fait 145 points. J'ai gagné meilleur joueur au Canada contre Jérôme Iginla. Donc, on était les... Et l'autre finaliste, c'était Nat Dominicali.
En finale de la Coupe Memorial?
Non, qui était finaliste du trophée pour meilleur joueur au Canada.
Ah, OK, d'accord.
Donc, Jérôme Iginla, Nat Dominicali et moi-même. Iginla jouait avec Dominicali et finalement, c'est moi qui ai été élu.
Ouais, j'ai vu que tu avais été joueur canadien de l'année. Exact. Tu gagnes aussi 2 fois les championnats du monde des moins de 20 ans avec l'équipe du Canada. Et tu gagnes aussi la Coupe Mémorial, qui est donc la Coupe de champion junior au Canada, parce que...
Comme Théo Rochette a gagné l'année passée.
C'est ça. Sauf que toi, tu avais été changé à Hull pour pouvoir le faire, parce que ton club à Sherbrooke, je crois, n'était pas candidat cette année-là pour le faire. Sur la Coupe Mémorial, tu es le meilleur compteur. Tu fais 7 points en 6 matchs. 13 points en 6 matchs.
J'étais avec Pavel Rosa. Hein.
Et voilà, je voulais te poser cette question-là par la suite. Et là, tu joues avec Rosa, qui est ton assistant ici depuis longtemps à Fribourg. Et le hockey, c'est quand même une affaire de relation. Et quand ça clique avec quelqu'un, ça peut amener à des histoires de compagnonnage extraordinaires.
C'est fou. On avait les deux 19 ans dans le temps. Si on avait dit que dans... 30 ans plus tard, pratiquement, qu'on serait coach, duo de coach dans une des bonnes équipes en Suisse, jamais ça aurait été possible, mais ça passe sur des rien. Donc, on a joué junior ensemble là. Ensuite, on a joué en Suisse un contre l'autre. Il est à Fribourg. Je me suis retrouvé à Fribourg comme coéquipier. Et puis, à un moment donné, Pavel était parti de Fribourg. Et puis, j'ai reçu un appel un jour pour me dire « Salut Christian, c'est Pavel Rosa, tu te rappelles? » Je dis « Ben, c'est clair, je me rappelle. » « Écoute, je voulais juste te dire si dans votre organisation, vous cherchez un coach et tout ça. Je coach les jeunes à Prague. » Et ça donnait qu'on cherchait un assistant coach pour Yann Cadieux, pour les U20, ici à Fribourg. Et puis, on a pris Pavel comme assistant coach des U20. Et 10 ans plus tard, on est là.
Mais si tu n'es pas à Hull à ce moment-là, d'ailleurs, tu es entraîné par Claude Julien, qui est un entraîneur à succès en Ligue nationale par la suite. S'il n'y a pas ce moment-là, il n'y a pas cette aventure, parce que c'est une aventure qui finit par le trophée. Et je crois que les gens en Suisse ne mesurent pas à quel point ce trophée est important quand même.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Coupe Stanley est très dure à gagner. Ils disent que c'est un des trophées les plus durs à gagner. Mais la Coupe Memorial est encore plus dure à gagner. Parce que tu as 4 ans pour la gagner en tant que joueur. C'est-à-dire, si tu joues comme 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans et 20 ans, excuse-moi, 5 ans, mais souvent, tu es pris dans une équipe qui n'a pas de chance de gagner la Coupe. Donc, dans ta carrière de junior, tu as 5 ans pour être la meilleure équipe au Canada. C'est 3 ligues, c'est 50 équipes, c'est quelque chose d'énorme. Donc, la gagner, c'est assez exceptionnel et c'est pour ça que c'est des souvenirs que tu te rappelles de toute ta vie.
Et donc, c'est une période très faste pour toi, entre 95 et 97. Il y a tous ces trophées. Tu finis aussi sur l'équipe d'étoiles, hein, quand même, de cette Coupe Mémoriale. Mais c'est aussi la période où tu es repêché par les New York Rangers. Tu joues pour les Faucons de Sherbrooke à ce moment-là. Et je me souviens bien aussi, ben, j'avais été... Je crois qu'après Hull, tu avais fait la préparation l'année suivante avec les Faucons. T'étais entraîné, enfin, l'équipe était entraînée par Bob Mongrain, avec Dino Mazzanotti comme assistant, si je me souviens bien. J'avais été venu voir un match de préparation. Tu partais le lendemain au camp d'entraînement des New York Rangers. Un match de malade. Hein. Je crois qu'il y avait en gros 2833 minutes de punition quand même sur ce match, sur ce match-là. Et je me souviens, tu étais parti à ce camp, mais avec les... Tu avais des étoiles dans les yeux. Tu étais parti pour jamais regarder derrière toi. Tu te voyais peut-être avoir une place pour 20 ans, 15 ans dans cette grande ligue. Et puis ça ne s'est pas bien passé. Ou pas comme ça. Tu as fait, je ne sais pas, faire au fond de te dire, tu as fait, je crois, 33 matchs en Ligue nationale. Dit comme ça, ça te fait mal encore?
Ben, probablement qu'aujourd'hui, peut-être je prendrais une décision différente. C'est-à-dire que quand je suis venu pour la Suisse... Je sortais de deux saisons dans les ligues mineures à Hartford. Tu dois comprendre que tu es seul avec... j'étais avec ma femme dans le temps, on habitait... Hartford est une ville... c'est pas une des plus belles villes au monde, on va s'entendre. C'est une ville qui est très violente. On habitait dans un 1,5 à notre première année. Il y avait un meurtre dans notre parking. donc tu te dis, purée, dans quel monde que t'es ici? Donc après, tu te fais un petit peu des amis dans le monde du hockey. Mais point de vue hockey parlant, ça allait pas super bien parce qu'on avait une équipe assez vieille, beaucoup de gars de 30 ans et plus. Je voyais que quand c'était le temps de rappeler des joueurs, j'étais pas la première option. Tu te mets à douter, ma première saison était pas du tout mauvaise, 50 et quelques points en 60 et quelques matchs en Ligue américaine. Ma deuxième année, j'étais premier marqueur de l'équipe pendant longtemps. Jamais eu vraiment de chance de monter parce que les Rangers étaient une équipe qui aspirait au titre et il n'y avait pas de plafond salarial dans le temps. Oui. Donc, tu n'avais que des stars. Tu avais vraiment
C'est Marc Messier, c'est cette époque-là. Hein,
Marc Messier, Wayne Gretzky, Luc Robitaille, Alexis Kovalev. Il y avait même Pat Lafontaine, Pavel Bourré qui est arrivé là, Peter Nedved. Donc, c'était une équipe de fous. Donc, quand ça fait deux ans que tu es dans les mineurs, tu n'as plus de plaisir à jouer au hockey. Tu as des équipes qui commencent à t'approcher en Suisse. Moi, je venais d'ici. Donc, mais probablement qu'aujourd'hui, peut-être que. Parce que je sais pas si tu connais l'anecdote que je devais être échangé au Canadien de Montréal durant l'été.
Non, je ne savais pas.
L'été que j'ai signé à Lugano, au mois de juin, donc au repêchage, j'ai Pat Brisson qui m'appelle, qui était mon agent. Puis il me dit, Christian, tu es échangé à Montréal contre un choix de deuxième ronde. Est-ce que tu dis oui ou non? Et j'en avais tellement marre que j'ai dit non. Et c'est peut-être la décision que je changerai au jour d'aujourd'hui. Mais tu sais, quand t'en as vraiment marre, tu dis, moi, je veux retrouver plaisir à jouer au hockey. Je vais partir un an à Lugano, puis on verra. Et puis, 25 ans plus tard, je suis encore là.
D'accord. Ouais, ça peut passer quand même le club de chez toi. Hein. Je pense que c'est le club que tu as vu. Tu parlais de la télévision, tout ce sport que tu voyais. C'est le club qui est rentré tous les jours dans votre maison à Sherbrooke, quand même.
Exactement.
Quand tu voyais ça.
Donc, c'est le truc que je changerais un petit peu, peut-être, mais j'étais tellement dans un état d'esprit que non, je retrouvais avoir plaisir. J'étais un joueur offensif. Tu viens en Suisse, je savais que ça allait fonctionner et que j'allais retrouver plaisir. C'est exactement ce qui est arrivé.
Le hockey a aussi beaucoup changé, Christian. Oui. Tu es plus grand que moi, mais tu n'es pas un grand joueur,
non.
On va dire. Quand je parle de la taille, hein, de ce côté-là. Tu n'as pas l'impression que... Alors, c'est difficile de refaire les époques, mais que le Christian Dubé d'aujourd'hui, avec son profil de joueur, n'aurait aucune difficulté à se tailler un poste à New York ou
ailleurs. Oui, mais tu peux pas penser comme ça, parce que sinon, il y en a des tonnes de joueurs. Je me rappelle très bien le premier lockout ou le deuxième lockout qu'il y a eu quand les règlements ont changé. Daniel Brière est venu jouer chez nous.
Oui.
Et Daniel, c'est un peu le même genre de moi. Daniel, je peux dire, pourrissait dans les mineurs. Ils ont changé les règlements. Trois ans plus tard, il signait 50 millions pour 5, 6 ans, 7 ans. Il me dit, Christian, pourquoi tu ne viens pas jouer en Amérique? J'étais à Berne depuis maintenant plusieurs années. J'avais du plaisir. Je pense que j'avais notre premier enfant qui est arrivé. Donc... Non, c'était hors de question. J'étais trop bien. Puis, mais tu vois comment ça a changé. Donc, la plupart des joueurs contre qui j'ai joué se sont retrouvés en NHL et ont eu du succès. Donc, est-ce que ça aurait fonctionné? Je crois que oui, mais je ne l'ai pas essayé. Donc.
Bien sûr. Et puis, tu as eu du succès en Suisse. Tu avais aussi un statut un peu particulier parce que tu jouais à une ère où il y avait quand même deux ou trois étrangers par club. Bon, à la fin des années 90, c'était ça. Et tu avais un statut de joueur suisse, donc tu étais un joueur rare, donc bien payé. Tu as pu faire une bonne carrière de ce côté-là aussi, de par ton statut.
Ouais, c'est clair que j'ai profité de ça. Aujourd'hui, avec six étrangers, c'est différent. Donc, je pense que j'avais quand même les statistiques ou l'envergure un petit peu d'un étranger, si je peux dire. Donc, c'est sûr que ça joue en ma faveur.
Tu as fait une moyenne de... Bon, tu as joué 3 ans à Lugano, 9 ans à Berne, 4 ans à Fribourg-Gottéron. Donc, plutôt un clubiste, hein, pas quelqu'un qui flairait le contrat chaque année, quand même.
Faire trois équipes en 15 ans, pratiquement. Ouais. Donc, non, ça va. Et je suis parti. J'aurais aimé rester à Berne. Il est arrivé quelque chose. Et pour moi, à Fribourg, il y avait Serge Pelletier qui était ici. Et puis, je voyais que Fribourg commençait à avoir des ambitions. Donc, pour moi, c'est un club qui était très intéressant.
C'est ça, donc... Comme tu dis, 15 ans, 3 clubs, plutôt quelqu'un de fidèle. Hein, c'est pas toujours comme ça dans le monde du hockey. Tu fais assez régulier aussi dans la production. Tu fais une moyenne de 1,2 points par match durant toutes ces années, avec pas de saison. Je crois que tu as une blessure à Berne qui est un peu pourrie une saison, si j'ai bien vu les statistiques. Ouais. Mais sinon, quand même très, 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 très régulier de ce côté-là. Et je me souviens qu'il y avait quelque chose que tu n'aimais pas à tes premières années à Lugano. C'était surtout la presse alémanique qui te définissait comme le perdant magnifique.
Oui, et ce qui était dur pour moi, c'est que partout où j'ai passé, j'ai toujours gagné.
Ouais.
Junior, j'ai gagné les championnats de junior deux fois, U18, champion aussi avec Canada. Donc, on a perdu la première finale à Lugano. On est fini premier par beaucoup, on a perdu la finale, et l'année d'après, on a encore perdu. Donc, suite à cette défaite, c'était clair que Christian Dubé était un perdant. Donc, pas capable de gagner avec Christian Dubé. L'année que je pars de Lugano, Lugano est champion. Et voilà, le problème est résolu. Dubé est parti de Lugano, Lugano est champion. Donc, ça a été un dur coup pour le moral. Je me disais, purée, mais après, il faut être plus fort que ça mentalement. Et j'ai réussi à avoir ma revanche, entre parenthèses, c'est que l'année d'après, on a battu Lugano en finale. Lors du dernier match à Lugano en prolongation.
Marc Weber.
Exactement. Donc, j'ai eu un petit peu ma revanche là-dessus. Et voilà, c'est un peu ce titre ou cette étiquette a été...
Là, tu perds 10 kilos ce jour-là. De pression.
Ouais, c'est magnifique. En fait, si j'avais perdu ça, ça aurait été vraiment dur. Ça a été vraiment dur parce qu'en plus, on menait dans la série. Puis après, on avait perdu bêtement le match d'avant. Et tu te poses la question, tu te dis non, mais c'est pas possible, le même scénario qui arrive. On se fait marquer en plus le dernier match à Lugano, on se fait marquer à 30 secondes de la fin pour égaliser Mike Manolok. Et tu te dis purée, ça joue de rien. Je me rappelle, et même l'overtime, Lugano a eu un shoot au goal de toute la prolongation, et ça a été un poteau d'Adrien Vixer. Donc tu te dis, ça se passe à quelques centimètres, et 2 minutes plus tard, on marque.
Oui, c'est ça qui est magnifique dans ce sport. Hein. Quand même, là, la pièce est tombée de votre côté, des fois c'est tombé de l'autre, mais il y a quand même, je trouve, peu de sports qui amènent cette dimension-là, quand même, de la pièce qui tombe d'un côté ou de l'autre. Tu as 10 000 personnes dans les estrades qui se rongent les ongles. C'est, quand on est acteur de ça, on tremble aussi.
Je pense que tu trembles plus quand tu es à l'extérieur que vraiment quand tu es dans le vif du sujet. T'as tellement de choses à penser que tu réfléchis plus trop. T'embarques sur la glace, tu fais ton job, t'essayes de suivre les directives, mais tu réfléchis plus trop. Je pense plus avant le match, t'es nerveux ou t'as hâte d'embarquer, mais c'est surtout les gens qui ont pas de pouvoir, de pouvoir aider. Là c'est difficile. Je sais que pour les familles, les amis, ça c'est extrêmement stressant.
Tu as senti quand tu parlais avec justement peut-être ton épouse et ça que c'était... qu'elle le vivait aussi de manière très, très forte. Tu devais presque la calmer ou ça se passe comment?
Non, mais c'est clair. Ben, après, chaque personne est différente, mais c'est sûr que c'est stressant pour les gens. Je veux dire, quand tu vis avec une famille, avec tes amis, tout ça, ils voient toute l'énergie, toute ta vie, tout ce que tu donnes pour ça. Donc, ils embarquent dans le jeu aussi. Puis à la fin, tu veux gagner. Donc, je pense qu'ils sont des fois peut-être plus nerveux que nous.
Là, Là, tu vas rentrer en play-off avec Fribourg-Oteron, ben, contre Lugano, dès samedi, hein, pour l'acte numéro 1. Tu seras comment à la maison durant cette période? Tu seras quelqu'un de fréquentable ou bien tu mets le bouton sur off pendant quelques temps?
Non, je suis très, très cool, très relax. Je fais mes trucs, c'est sûr. Je dois faire mes... chaque match, on fait nos vidéos, on doit étudier ce qui s'est passé ou ce qui va se passer, mais j'essaie de rester le plus normal possible. Je suis dans un très bon état d'esprit, on a une super belle saison. Si on n'est pas confiant là, on ne sera jamais. Après, très belle équipe de Lugano de l'autre côté, mais à nous de bien faire nos devoirs et puis d'être le plus près possible.
Et c'est les expériences que tu as beaucoup vécues comme joueur. Je veux revenir aussi sur tes 9 ans avec Berne. On parle quand même du plus grand club d'Europe. Là, je pense que la pression, tu ne l'as pas seulement bu.
Il y avait beaucoup d'attentes quand je suis arrivé à Berne. Pour être honnête, je me rappelle encore que mes 3 premiers matchs à Berne, je pense que j'avais pas un point. Et puis, il y avait un gros titre dans le blick que c'est un transfert raté de Lugano et c'est ça. Et puis, le match d'après, à la maison, j'ai marqué 3 goals contre Zug. Et le titre, c'était que l'Euro. The King is back. Donc, tu dis, c'est terrible. Donc, la pression, je l'ai toujours eue. J'ai déjà eu mon salaire dans les journaux souvent. Donc, ça a été un sujet de discussion. Donc, tu sais, quand les gens me demandent est-ce que tu as de la pression, je m'en mets assez de pression. Je n'ai assez eu de pression. J'ai pas de problème avec ça. Donc, mais j'aime ça. C'est ce qui me fait vivre aussi. Donc, j'adore.
D'ailleurs, je ne me sens pas que tu as connu des moments, parce que souvent, quand on a été joueur et on arrête, les gens se cherchent un petit peu. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Toi, tu es passé vraiment du vestiaire au bureau tout de suite. Tu n'as pas eu ce moment où tu as pu vivre un peu en dehors de cette pression et peut-être sans cette adrénaline aussi. Ouais. Tu ne connais pas la vie sans pression.
La vie normale. Ouais. je suis un gars qui aime... prévoir, qui aime regarder en avance, qui aime penser qu'est-ce qui va arriver après, si et ça. Donc, je m'étais déjà un peu pris d'avance. Je sentais que la fin arrivait tranquillement. Je m'étais déjà engagé avec Gérald Métro d'embarquer comme agent avec eux, avec Gaétan Voisard. Mm-hmm. Et puis, j'avais déjà commencé tranquillement ma dernière année. Et finalement, quand Fribourg s'est dit qu'il cherchait un directeur sportif, je me suis remis en question, il m'a demandé si j'étais peut-être pas la bonne personne pour ça, parce que j'ai toujours amené les tractations de contrôle. Et donc, je me suis assis avec eux, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils pensent, et tout de suite, ils m'ont dit que c'était assez intéressant, et puis on a été de l'avant comme ça.
Ça, avec du recul, ça devait pas être facile. T'es dans le vestiaire, tu joues donc pour Fribourg-Oteron, c'est ta dernière saison, tu sais que tu vas raccrocher, et à côté de toi, t'as 25 bonhommes ou 23 bonhommes qui savent que c'est toi qui vas décider de leur avenir à quelque part. C'était comment cette relation en ce moment-là?
Ben, ils ont attendu avant la fin de saison, avant de l'annoncer. On a attendu vraiment que la saison se termine. Puis ça s'est terminé sur un play-out. Donc moi, c'était ma fin de carrière et puis le dernier match était en play-out. Ils savaient maintenant depuis 2 semaines. Donc, tu sais, il n'y a plus vraiment d'enjeu dans les matchs. On savait qu'on est on jouait pas de relégation ou autre. Donc, moi, j'avais eu déjà des discussions avec des joueurs et puis, donc les joueurs savaient, mais après, quand la saison se termine, ben là, t'as des décisions à prendre. On avait une saison de misère et puis moi, j'ai dit que je faisais le ménage un peu. Mmh. Donc, ce qui a été très difficile pour moi, c'était d'écarter des joueurs avec qui t'es coéquipier. Je me rappelle Joël Kwiatkowski, qui était un de mes meilleurs copains dans l'équipe, puis qui était encore, il y avait un contrat comme étranger. Et puis je lui ai dit que je ne le voulais plus. Donc ça a été difficile. Puis tu essayes de dire, tu sais, c'est strictement business, mais après, ça fait mal. Ça fait mal au cœur. J'ai eu des choix déchirants faire comme ça de Benji Kuntz, qu'on l'a aussi décidé de s'en débarrasser. C'est un de mes meilleurs amis dans l'équipe. Donc Adam Hassani, qui était mon allié aussi. Après, quand on a terminé avec Benny Plus. Donc c'est tous des choix déchirants. C'est comme même présentement avec André Bikov. J'ai une longue relation de 14 ans. André Julien, c'est les derniers joueurs avec qui j'ai joué. Donc c'est pas facile.
Ça crée des blessures, ce genre de choses. Est-ce que ça peut s'accommoder ou bien finalement ça peut être des relations humaines qui s'arrêtent là parce qu'il y a un sentiment?
Ça dépend toujours comment la personne est, comment on est tous différents. Il y en a qui vont le prendre personnel, puis il y en a d'autres qui comprennent que c'est que c'est le business. Il y en a plein que je parle encore aujourd'hui sans problème, qu'ils comprennent que hey, Christian, c'est très bien, c'est pas facile. Puis il y en a d'autres qui l'ont pris plus personnel, puis ça a terminé des relations, c'est clair.
C'est la vie, c'est l'image de ben, ça. C'est, tu disais avant, tu connais pas la vie normale, à quelque part. Oui, ça, c'est la vie normale aussi.
Ben, moi, c'est ma vie normale. Je veux dire, je savais que, tu sais, quand t'es chef d'entreprise, tu as des décisions difficiles à prendre. Donc, si t'es pas capable d'assumer ça ou de les prendre, mais tu dois pas être dans cette position-là. Donc, ça me fait pas plaisir d'être tout, souvent le méchant. Donc, c'est ce qui est. C'est le truc probablement le plus difficile dans mon job, c'est ça. C'est de finir des. Ou de dire à une personne que tu le veux plus, et c'est pas. Mais après, moi, je peux pas. On réagit tous d'une manière différente.
D'un autre côté, tu l'as vécu toi-même aussi ces derniers mois à Fribourg-Oteron, puisque au terme de la saison dernière, quand vous n'êtes pas qualifié pour les playoffs, à part faire toute l'histoire, mais il a fallu changer quelque chose, et tu as perdu tu perdras à la fin de saison ton statut de directeur sportif. Donc toi-même, tu as connu ça au sein même de ton organisation.
Ouais, c'est clair. Et j'ai pas de problème avec ça aussi. Je veux dire, on s'est assis, on a discuté. On pensait que c'était la meilleure décision à prendre. Parce qu'aussi au jour d'aujourd'hui, d'avoir une personne qui prend toutes les décisions, ça peut être compliqué des fois. Je comprends très bien ça. Et puis probablement que si l'année passée on avait une saison extraordinaire, qu'on n'aurait pas eu à prendre cette décision-là. On l'a pris et puis c'est pour le meilleur pour l'organisation. Donc,
maintenant moi je vois ça de l'extérieur. J'ai tendance à penser que c'est un milieu très émotionnel. L'équipe qui patine actuellement pour Fribourg-Oteron, c'est la tienne. Me semble-t-il, je fais ombrage à personne en disant ça. Il me semble que vous avez plutôt connu une bonne saison régulière. Donc est-ce que c'est un choix qui se justifiait vraiment, ou c'était un choix qui était conditionné par l'émotion? Il fallait à tout prix faire quelque chose parce que les résultats n'ont pas été à la hauteur de prévisions qui sont des fois, qui ne résistent pas à la réalité. Voilà, une saison.
C'est sûr que Fribourg est un milieu très, très émotif. Donc, je pense qu'il y a eu peut-être un petit peu un vent de panique. Mais après, moi aussi, là-dedans, j'étais inclus dans cette décision. J'étais fatigué émotionnellement en fin de l'année. Donc, même j'étais proche de dire que je sais pas si je veux continuer, parce que à un moment donné, ta santé aussi, c'est important. Et puis, donc, sur le vif du sujet, deux semaines après l'élimination, j'étais encore dans le mode probablement qu'il faut changer quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, écoute, je suis très content que Gerd soit GM, directeur sportif pour les saisons à venir. On a une très bonne relation, c'est la bonne personne. Donc, il va être très différent de moi. Point de vue caractère, mais je pense que c'est une personne qui va prendre les bonnes décisions, qui est posée. Et puis, moi, comme coach, écoute, je pense que c'est un bon fit avec l'équipe présentement. Donc, voilà, si ça peut continuer comme ça les prochaines années avec lui et moi, et que ça va bien, mais tant mieux, ça aurait été la bonne décision.
Vu de l'extérieur. Ça semble une décision un petit peu cosmétique, puisque toi et Gerd formiez un binôme la saison dernière, cette saison, qui fonctionne plutôt bien, je pense, d'un point de vue humain et aussi de performance derrière. Là, c'est le même binôme, on a juste changé les casquettes. Oui. Finalement, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de changements?
Ben, je pense quand même que Gerd va prendre des décisions à la fin, négociation de contrat, puis faire une équipe un peu à son image. Je pense que Gerd, c'est un gars intelligent pour demander au coach qu'est-ce qu'il pense de ses joueurs, ce qu'il fait présentement. Donc, j'ai une totale confiance en lui qu'il va me consulter pour certains joueurs. Je veux dire, tu peux pas faire évoluer ou signer des gars qui sont pas à l'image de ton coach. Donc, il y a quand même des choses qui vont changer, même si à la fin, on va travailler ensemble. je travaillais comme ça aussi en tant que directeur sportif quand je n'étais pas coach. Je consultais tout le temps mon coach pour savoir qu'est-ce qu'il pensait de tel ou tel joueur. Donc, Gail va sûrement faire la même chose.
J'ai l'impression que tu parlais avant la possibilité, tu avais même tâté le métier d'agent, directeur sportif aujourd'hui, qu'en fait tu l'as toujours été un petit peu. Ça me fait penser quand tu étais à Berne, et c'est plusieurs joueurs qui me l'ont raconté par derrière. J'ai parlé il n'y a pas longtemps à Sébastien Bourdelot qui m'a raconté par comment il avait atterri à Berne. En fait, tu sais ça mieux que lui, c'est toi qui avais un petit peu tout mis ça en place, et c'est pas le seul. Tu as toujours eu une influence extrêmement grande dans les clubs où tu étais, et même quand tu étais joueur.
Ben, pour quelconque raison, j'avais des contacts aussi pour les étrangers au Canada. Et puis, mais tu sais, je regarde présentement, je consulte souvent mes meilleurs joueurs aussi, mes joueurs qui ont de l'influence. Pourquoi vous pensez que Walmart est ici aujourd'hui? C'est parce que c'est De La Rose qui était copain avec, qui l'a amené. Un Diaz, Cerreto Vera, donc Christophe Berchi. C'est aussi, c'est tellement un petit monde que tu as besoin de connexion. Et quand tu es coach ou quand tu es directeur sportif, ben, tu parles avec tes joueurs pour dire est-ce que tu crois que lui aimerait venir? Et donc, c'est un peu comme ça, oui, à Berne, à Lugano aussi, qu'on me consulte un peu. Entraîneur aussi, tu veux savoir. C'est important que les joueurs sont dans le bateau, dans le même bateau. Si tu engages un entraîneur, ça pourrait arriver qu'on demande aux joueurs qu'est-ce qu'on pense de lui, est-ce qu'on le connaît aussi ou ça. Donc, pour moi, c'est important d'avoir la température. Donc, je peux m'imaginer que dans le temps, à Lugano, à Berne, ça pouvait être comme ça aussi.
En tout cas, à Berne, tu choisis la personne qui va jouer avec toi, puis avec laquelle... Il y avait d'autres joueurs dans l'équipe, attention, hein, tu gagnes ton premier titre en Suisse.
Oui, ouais. Ben écoutez, quand je suis arrivé à Berne, l'histoire, c'est que Derek Armstrong était déjà là signé. Derek a signé à Los Angeles. Oui. Donc, Berne cherchait un joueur au mois de juillet. Donc, à Sherbrooke... Ben, plusieurs joueurs qui jouent à Sherbrooke, les frères Lebeau, Sébastien Bordelot, Stéphane Robidon, on avait une tonne de joueurs. Et puis, Sébastien sortait d'une blessure à Nashville et pensait d'arrêter le hockey. Donc, moi, je dis à Sébastien, tu fais quoi l'année prochaine? Ouais, je sais pas, je vais être capable de me trouver un contrat, je sors d'une blessure au cou, c'est compliqué, c'est ça. J'ai dit, si Berne est intéressé, on cherche un étranger, est-ce que tu serais intéressé? Il dit, laisse-moi parler avec ma femme. Puis moi, Sébastien, il jouait l'été, il jouait avec nous, puis il est en top forme. Puis j'ai dit, c'est impossible que ce gars n'ait pas du succès en Suisse. Et puis, il me dit, oui, OK, je suis d'accord. Je dis, bon, OK, j'ai dit, le coach va t'appeler, Marc Lutti va t'appeler demain. Ben, 4 jours plus tard, le contrat était signé.
C'est exactement ce qu'il m'a dit, donc c'est tout à fait ça. Ouais. Ouais. Magnifique, quoi. Il y a aussi un mythe, une réalité, je ne sais pas, je te pose la question. Franco, quand je couvrais le hockey sur une base régulière, il se disait que Christian Dubé avait beaucoup de pouvoir sur la durée de vie d'un entraîneur à Berne. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Alors, quand j'étais... probablement que... Comment dire? Moi, j'ai jamais été en haut, parler au président, parler au GM, que j'aimais pas tel ou tel coach. Quand je suis arrivé à Berne, c'était Ken Runke qui était coach. Et on était champion ma deuxième année à Berne. Et Kent avait décidé de partir de lui-même. Il y avait des problèmes, je pense, avec le conseil d'administration. Ils ont mis Alan Hayworth. Ça n'a pas fonctionné avec Alan. Ils ont amené Alpo Suonen. Alpo Suonen est resté là, je pense, 2 ans. Et moi, j'ai eu mes deux moins bonnes saisons avec lui. Il est resté 2 ans. Et par la suite, John Van Boxmeer est arrivé. J'ai eu John Van Boxmeer 3 ans là-bas. John était très dur avec nous, mais moi, je l'ai toujours bien aimé. Puis après, on a pris une décision de ne pas le garder. On a été en finale, on a perdu, puis on a sous-performé par la suite. Et ensuite, Larry Russ est arrivé. Jamais qu'on m'a consulté. Jamais qu'on m'a consulté pour un coach. Donc, non.
C'est un mythe.
Non. Jamais. On aurait pu me demander qu'est-ce que tu penses de tel ou tel, mais et très, très honnêtement, je pense qu'on... On ne demandait pas qu'à moi. Je pense que les joueurs suisses avaient plus d'influence que moi.
Oui, je crois que Ivo Reutemann avait beaucoup, beaucoup d'influence aussi.
Alors, Ivo, t'es un de mes meilleurs amis. On était plusieurs dans l'équipe. On était quand même un bon groupe de leaders. Tu avais les frères Ziegler, tu avais Marco Bauer, Martin Steinegger qui était capitaine. Donc, on avait quand même un groupe assez avec assez d'expérience. Là. Ils ne demandaient pas seulement à une personne.
Tu as été propulsé entraîneur de Fribourg-Oteron sans avoir une réelle expérience de ce rôle-là. T'es un petit peu le Martin Saint-Louis de la Suisse, hein, de ce côté-là. T'as appris sur le tas ou en fait t'as construit tes idées, ta philosophie de jeu au fil de ta carrière en t'inspirant d'entraîneurs que tu as eu, de choses que tu as appris, d'autres que tu as jetées.
Bon, déjà le coaching, pour moi c'est très facile parce que j'ai eu mon père comme exemple. Oui. Donc déjà quand j'étais jeune, à 12, 13, 14, 15 ans, mon père me parlait déjà puis il me disait, regarde Christian, quand il y a tel ou tel joueur sur la glace, moi je mets tel joueur pour contrer, donc face-off offensif, donc c'est toutes des choses que j'ai dans moi depuis longtemps. Et ça, les gens ne le savent pas, mais donc oui, j'étais nouveau en arrière du banc, mais j'étais même pas nerveux pour ça, parce que le coaching, je l'avais dans moi, c'était très facile, parce que quand je jouais, je challengeais aussi mes coachs, dire, je peux pas comprendre que dans cette situation, tu mets ça ou ça, quand pour moi, c'est clair. Donc, j'ai toujours aimé challenger ou... et puis après, ben, on avait tout le temps des discussions, mais des bonnes discussions. Donc, le coaching, j'étais nouveau, mais pas sur cet aspect-là. Ce que j'étais nouveau, c'est tout ce qui est système, tout ce qui est entraînement. Donc, là-dessus, Sean Simpson nous a apporté beaucoup. Pavel avait coaché déjà les U20, avait coaché... Donc, lui, Pavel aussi avait une certaine expérience. Et sur le système de jeu, les deux, on voyait la même chose. Avec Pavel, on était deux joueurs qui jouaient un peu le hockey de la même manière, deux joueurs offensifs. Donc, défensivement, il fallait qu'on s'améliore. Et puis, Sean nous apportait des trucs. Et puis après, on regardait un peu ce qui se faisait en NHL, dans la Ligue aussi. Donc, on s'est assis vraiment, Pavel et moi, ensemble. Puis, on a fait un playbook, qu'on appelle. Et puis, forecheck, comment qu'on joue dans la zone, comment qu'on telle et telle situation, ce qu'on veut. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même pas mal à point sur notre truc. Pat est arrivé à apporter des petits ajustements offensifs, mais je pense qu'en général, il voit qu'on est assez au clair avec ce qu'on fait.
Très concrètement, là, on est mardi, il est 14h. Vous commencez samedi votre quart de finale contre Lugano. Comment est-ce que vous le préparez d'un point de vue technique? Est-ce que vous vous adaptez au jeu de l'adversaire? Juste pour le grand public, là, c'est pas comment ça se fait. Les joueurs arrivent sur la glace, t'as des entretiens avec chaque unité, t'as des entretiens individuels. Comment ça va se passer sans révéler les secrets?
Non, on va avoir des séances vidéo, donc on est en train d'analyser le jeu de Lugano, même si on le connaît. Là, on a joué contre eux il n'y a pas longtemps. Après, j'ai confiance en mon équipe que je préfère que ce soit Lugano qui s'adapte à nous que le contraire. Faut qu'on soit capable d'imposer notre jeu, mais on regarde les tendances de l'autre côté. Tout ce qui est power play, 4 contre 5, différentes phases de jeu, on va regarder comment ils forecheck, comment ils jouent, où qu'on doit mettre l'emphase, ce qu'on doit faire. Donc, mais ça commence. On attendait de voir qui on allait jouer. Et puis, on a mis l'emphase sur différentes choses hier et aujourd'hui. Et puis, jeudi, vendredi, on regarde vraiment plus les tendances du côté de Lugano. Puis après, je vais avoir des séances individuelles avec certaines lignes, comme tu dis, oui. Puis, à quoi je m'attendais.
Là, vous allez vous entraîner jusqu'à vendredi. Ça sera vraiment le dernier vrai entraînement de la saison. Ce que je veux dire par là, avec des matchs... Ça dépend combien de temps les séries vont durer derrière, mais exact. Ça sera plus de la régénération.
Après. Exactement, c'est plus du... de se remettre en jambes et tout ça, mais éventuellement, s'il y a des ajustements à faire, mais c'est, comme tu dis, c'est probablement le dernier vrai entraînement qu'on a avant la fin de saison.
Autre chose, tu l'as dit un petit peu en préambule, Christian, tu as d'autres passions dans la vie, donc je vais t'amener là. Comment est-ce que tu vas te préparer au niveau vestimentaire pour ces séries? Parce que tu véhicules l'image du coach élégant. Ça se passe comment? Tu vas dans les boutiques, c'est ta femme qui t'habille. Est-ce que c'est important pour toi de dégager cette image de Monsieur Classe?
Ben, je me vois pas comme Monsieur Classe, mais pour moi, j'ai mon style vestimentaire que j'aime être différent des autres en arrière du banc. J'aime être bien avec moi-même. Et puis, j'y vais au goût du jour. Jamais que je vais choisir, ou je vais choisir peut-être le soir d'avant ce que je vais mettre le lendemain. Mais des fois, je me lève le lendemain, puis finalement, j'ai complètement changé d'idée. Donc, c'est un peu... mais j'aime bien jouer avec ça. J'aime bien jouer avec ça parce que ça fait parler les gens, puis j'aime bien faire parler les gens. Je trouve ça quand même drôle parce que pour moi, c'est normal, mais je trouve ça amusant. Puis comme je dis, je trouve que ça met une touche de fun dans notre équipe. Je pense qu'on est une équipe. Et c'est un des premiers mots que je dis aux joueurs, c'est quand vous venez à la patinoire, je veux que vous amusiez, je veux que vous ayez du plaisir tout en travaillant puis en étant sérieux, mais j'aime avoir cette parce que tout le monde me voit comme un gars très sérieux, arrogant même, et tout ça qui est fermé, mais je suis totalement le contraire. Puis pour moi, c'est un peu ma manière de montrer aux gens que je suis capable de rire de moi-même. Les habits de Noël que je mets, j'en ai vraiment... J'ai pas de problème, je mets le cringe et tout, j'ai l'air ridicule, mais ça détend l'atmosphère aussi, les gars aiment ça. Donc oui, j'aime ça être différent, puis mettre des choses qui fait rire les gens.
Juste témoigner aussi, je crois que c'est une erreur de penser que tu es quelqu'un d'arrogant. Je pense que tu es quelqu'un de passionné, puis c'est des fois la passion qui peut amener à certains excès. Et puis finalement, tu travailles dans la société de divertissement, et puis merci de divertir les gens.
Merci. Pour moi, je suis juste naturel, c'est même pas je joue pas un jeu. Je pourrais être encore plus faux que ça, je me calme un petit peu.
J'ai une dernière question, Christian, en tout cas pour cet entretien. Il y a un truc assez dingue dans le monde du hockey, et ça ne concerne pas que toi ou que ton équipe, ça doit être la seule profession au monde où les gens ne veulent pas partir en vacances.
C'est quand même fou, ouais. Mais tu veux seulement partir en vacances une fois que tu as soulevé le trophée. Donc, je pense que c'est normal, puis... Ça arrive tellement peu souvent d'être champion. Tu vois, j'ai joué 19 ans professionnel, puis je l'ai gagné deux fois seulement. On peut dire deux fois, mais il y en a un qui ne gagne jamais. Et puis, c'est des souvenirs que tu te rappelles de toute ta vie, vraiment, qui vont être avec toi toute ta vie. Tous tes coéquipiers, tout ça.